je vais présenter le conférencier de ce soir. Et il s'agit d'un philosophe, Jean-Maurice Monnoyer, qui est né en 1949. Il est actuellement maître de conférence à l'université de Grenoble II, Pierre Mendès France, dans le département de philosophie. Il est agrégé de philosophie, docteur ès lettres. Il a été longtemps enseignant à l'étranger, à l'université de Pise et de Gênes, puis en classe préparatoire à Vienne en Autriche jusqu'en 1995. Ses travaux portent à la fois sur l'épistémologie, la philosophie et la métaphysique de la perception, sur Wittgenstein et aussi sur tout ce qui est question d'esthétique, philosophie de l'architecture, théorie de l'image, théorie de la photographie. Donc il a des intérêts tout à fait divers. Il a publié, je donne sa bibliographie, des entretiens avec Pierre Klossowski, donc ça c'est le domaine de l'art, Le peintre et son démon chez Flammarion en 1985, La pathétique cartésienne chez Gallimard en 1988, un petit livre qui est un peu perdu aux presses universitaires de Pau, mais que j'espère qu'on va pouvoir récupérer de manière plus accessible un de ces jours, sur Walter Benjamin, Karl Einstein et les arts primitifs. Il a fait la traduction et la présentation de l'analyse des sensations du scientifique et philosophe du 19e siècle, Ernst Mach. Il a donné très récemment une nouvelle édition de la psychologie de la forme du psychologue Wolfgang Köhler, chez Gallimard en l'an 2000, et il est l'auteur d'un livre à paraître, La forme sans image. Il va nous parler donc des illusions perceptives et de la perception de la forme pendant une cinquantaine de minutes avec des illustrations, et puis ensuite il répondra à vos questions. Je vous remercie.
Je voudrais remercier Yves Michaud de m'avoir invité dans une compagnie aussi savante. Je ne sais pas si je vais tenir ma place. D'abord parce que le philosophe ne s'exprime pas de la même façon, évidemment. Et ensuite parce qu'il pose parfois des questions un peu tordues aux yeux des scientifiques. Mais il y a une épistémologie de la perception qui intéresse directement les philosophes et sur laquelle je vais vous dire quelques mots. Bon, il faut que je crie, alors. Non, pas. Alors, j'espère ne pas vous décevoir, donc. Mais si je dis « j'espère ne pas vous décevoir », c'est parce que je suis naturellement assez résistant aux illusions. Encore plus près.
Ah oui, très près du micro. La
voilà. Donc, j'espère ne pas vous décevoir parce que je suis naturellement assez résistant aux illusions. Je partage le point de vue de Russell qui disait au début du siècle nous devons nous rendre compte, c'est en 1914, nous devons nous rendre compte qu'il n'existe pas des choses comme les illusions sensorielles. Pourquoi cette affirmation aussi péremptoire de Russell, pourquoi je la mets en avant, vous allez comprendre pourquoi. Pourtant, je vais vous en présenter quelques-unes. Il y a de plates illusions. Mon propos ne va pas rejeter la réalité des illusions perceptives, mais inclure la sorte de déception qu'on peut avoir quand on leur attribue une cause. De manière habituelle, c'est une question qui est traitée par les psychologues et les neurobiologistes. Mon point de vue est un peu différent du leur, et d'abord je vais m'occuper à définir ce que nous appelons une illusion perceptive. Quel est ce statut épistémologique de l'illusion? Dans une deuxième partie, je parlerai du voir comme, plus précisément du voir comme autrement. Et dans une troisième partie, j'essaierai de montrer comment on peut mettre certaines questions esthétiques sous observation. Bon, de quoi parlons-nous ce soir? On peut dire, en termes très brefs, que l'hallucination est une perception fausse vue par une seule personne sous l'effet d'une drogue ou dans un état pathologique, sans qu'elle subisse une suggestion extérieure quelconque et sans que cette personne réponde à une stimulation. Au contraire, une illusion a pour objet une interprétation déviante ou, le cas échéant, supplétive d'un stimulus optique ou auditif, parfois tactile, plus rarement olfactif, dont presque tout le monde fait normalement l'expérience. Donc, on a tendance à dire que les illusions sont des erreurs du système visuel qui peuvent nous donner des clés pour comprendre les mécanismes sous-jacents de la vision et de l'audition. Alors, j'employais le mot d'interprétation, et c'est ce mot qui, pour le philosophe, prête à discussion. Donc, il est possible de distinguer des illusions qui ne sont pas interprétatives et qui ne seraient considérées comme fourvoyantes que par abus de langage de notre part. J'y reviendrai plus loin. Ce qui m'importe ici est la thèse centrale selon laquelle nous observons des illusions comme nous observerions des objets perceptifs. Sont-elles de même nature que parmi les objets que nous appréhendons ? Le philosophe ne peut questionner leur nature et il ne conclut pas que leur fonction détermine leur nature. Il est prêt à admettre que notre capacité à expliquer leur production nous renseigne de très près sur les fonctions visuelles, mais il est plus réticent à souscrire à des considérations plus homologiques sur le fonctionnement du système cérébral et du champ extérieur. Nous subissons tous une très, très compréhensible et très, très naturelle attirance pour les illusions qui sont des pièges, des puzzles. Et on peut dire qu'elles font pour le philosophe elles entretiennent une dissymétrie entre l'objet et le contenu. Alors, admettons que par définition, si vous êtes prêt à admettre avec moi cette définition, que le concept illusion ou le concept d'illusion soit un concept normatif. Que voulons-nous dire par là ? Que pour qu'il y ait une perception correcte ou corrigée, il faut qu'il y ait un ensemble de données qui entrent sous le cadre d'une stipulation défectueuse de leur état. Est-ce que je peux déduire du concept normatif d'illusion qu'il y ait une normalisation des illusions ? C'est une conclusion que je ne ferai pas. C'est le passage à des conséquences ontologiques qui fait problème. Les illusions sont des entités et nous n'observons pas vraiment des entités. Alors que voyons-nous ? Il y a, pour aller très vite, trois grandes classes d'illusions, même si je ne respecte pas ici les différentes tables qui ont été proposées, en particulier la très remarquable synthèse de Jacques Nignot. Je dirais qu'il y a donc trois espèces d'illusions. D'abord des illusions géométriques, d'angle et de taille. Ensuite, des illusions angulaires. Et enfin, des illusions, pour ce qui est du champ optique, de luminosité et de couleur. Avant de montrer quelques images, revenons donc à ces premières illusions qui sont connues depuis l'Antiquité pour certaines et qui ont été plus ou moins exploitées avec profit, surtout au XIXe siècle. Alors, les illusions sont attribuées aujourd'hui, techniquement, à un contraste qui est causé par l'inhibition latérale entre des signaux d'orientation neurologique divergents. Mais cette explication rencontre un problème avec une illusion classique qui est celle de Poggendorf en 1860, où on voit un rectangle traversé par derrière, si on peut dire, par une ligne. Cette illusion en effet disparaît si l'on conserve des angles aigus, mais elle persiste si les angles sont obtus. Il en va de même pour la célèbre illusion de Fraser, une illusion circulaire de 1908, où le système visuel semble élire ou choisir des orientations et ne pas les intégrer correctement. S'agissant des illusions de dimension, qui sont très importantes pour la plupart d'entre nous, un chercheur aussi éminent que Grégory a souligné que la constance de taille et de grandeur, qui croît par échelle, permet à chacun une perception correcte, même quand la distance, et donc quand la taille rétinienne des objets, change. Il attribue ces illusions géométriques à une application inappropriée de la constance de taille. Par exemple, un homme de petite taille, à l'avant-plan d'un schéma, paraît minuscule avec un homme que l'on voit à distance, alors que la taille rétinienne est identique. Donc le problème, avant d'aborder les schémas, le problème central des illusions, c'est celui de savoir quels sont les indicateurs de profondeur. Sont-ils vraiment inscrits dans le plan? Et est-ce que l'on peut étendre la constance de taille perceptuellement à des objets lointains en dépit de ces indicateurs ou grâce à eux? Une des illusions les plus célèbres, c'est celle de Müller-Lyer, où les pointes des flèches fournissent des indices similaires de ceux que nous donnent des angles qui avancent ou se rétractent. Et dans l'illusion des tables de Roger Shepard, qu'on va voir maintenant, qui est une illusion extrêmement discutée et connue, les deux plans de la table sont géométriquement identiques en 2D, mais apparaissent complètement différents en trois dimensions parce que les constantes de taille et de forme s'étendent subjectivement le long de la ligne de visée pour compenser le raccourci géométrique. Donc si on peut discuter cette illusion, puisqu'en fait Shepard est un spécialiste des dessins, il a fait énormément d'artefacts, c'est-à-dire il a créé lui-même de très nombreuses compositions qui ont donné lieu par la suite à une publication. Et si, évidemment, on supprime quelques indices de profondeur, on peut discuter pour savoir si, effectivement, l'illusion persiste. Il semble qu'elle persiste si on supprime les pieds et qu'elle persiste aussi si on tourne autour de la figure, mais je ne suis pas certain qu'elle soit aussi persistante si nous supprimons les ombrures du plan de la table. Enfin, il y a des illusions de luminosité et de couleur. Par exemple, une croix grise paraît plus sombre sur un fond blanc que sur un fond noir. Dans un environnement rouge, elle semblera verdâtre, probablement là aussi à cause d'une inhibition latérale des neurones qui sont affectés à la détection du blanc ou des zones colorées. Donc, avant d'aller plus loin, nous avons jusqu'ici essayé de montrer que le classement de ces illusions laissait une marge très importante pour trois sortes de choses qui sont rangées dans la catégorie des illusions interprétatives et qui intéressent évidemment beaucoup parce que la réponse cognitive paraît moins évidente ou moins automatique, c'est-à-dire les figures ambiguës, les figures impossibles, les images en puzzle. Alors, je voudrais là aussi vite en faire une révision. Alors, dans les images ambiguës, le cerveau fonctionne comme un interrupteur. Il switch entre deux interprétations possibles du rapport fond-figure, comme nous le verrons tout à l'heure, même quand le stimulus ne change pas. Au fond, on peut dire que la forme de la région sélectionnée comme figure est perçue et mémorisée, alors que celle du fond ne l'est pas. La deuxième sorte sont les figures impossibles, où il y a un conflit entre des indices de la troisième dimension. L'exemple souvent cité est le triangle de Penrose, 1958. Ce n'est pas la projection d'un objet physique impossible. Des connexions incorrectes se font entre les coins de chaque partie du triangle. Donc elles sont correctes. En fait, elles sont correctes localement. Elles sont incorrectes si on assemble le triangle. Et il faut noter qu'on ne peut pas peindre en couleur, on ne peut pas peindre ces objets avec des couleurs. Et enfin, troisièmement, les puzzles, pour lesquels il y a une seule interprétation possible, mais les indices sont rares, ils sont parcimonieux, ils ne nous permettent pas de la trouver facilement. Quand elle est trouvée, on s'en souvient. Donc, il y a des illusions, elles sont connues, diagnostiquées, répertoriées. Il y a des limites à... Il y a une sorte d'instabilité mécanique de l'œil aussi, parce que l'œil il y a un groupe de mouvements oculaires qui fait que l'œil a une instabilité mécanique. Maintenant, essayons d'entrer philosophiquement dans le sujet. Si nous admettons que le point central est celui de l'interprétation, qui nous aide à séparer les illusions en deux grandes classes, celles qui seraient... susceptible d'interprétation et celle qui n'en propose pas, on peut admettre aussitôt une covariance entre ce qui se passe dans le monde visuel et ce qui se passe du point de vue de ce qui constitue ma présence dans ce même monde. C'est en quoi nous ne pouvons pas avoir une image rigide de l'illusion qui est le fruit d'un dynamisme. Le plus trivial est d'évoquer le changement par retournement. Mais de façon plus globale, c'est à l'intérieur d'une relation entre des relations que se trouve enchâssé le centre du problème que j'aborde ce soir. Cette thèse relationniste et pré-relativiste a été défendue par Ernst Mach. Les termes de la relation sont ce que nous appelons des termes sensationnels, des éléments de sensation qui n'ont aucune substance, qui ne sont pas non plus vraiment des atomes psychiques. On va essayer de voir le transparent de Mach. Alors, dans son livre « L'analyse des sensations », Mach propose donc une image qui est assez connue maintenant du champ visuel de l'œil gauche. Et il constitue cette image au moment même où vous voyez la main qui la dessine, même si le papier a disparu. On voit la moustache de Mach, on voit effectivement que les bords du champ visuel sont flous. Et on peut se demander quel genre de capture s'opère par l'œil, quel genre de découpe est opéré. Ce qu'il veut montrer, c'est que le sujet, le moi, prétendu moi, est dissipé, externalisé et donc détruit. Ce dessin est reproduit dans un chapitre qui s'appelle « Remarques anti-métaphysiques ». Et Mach pose évidemment des questions qui continuent d'être des questions vivantes pour les philosophes d'aujourd'hui. Je ne vois pas mes sensations. Je ne ressens pas la vision binoculaire et donc je m'éprouve comme si j'avais un œil cyclopéen. Ce qu'à vrai dire, évidemment, je ne suis pas tout à fait, parce que si vraiment j'avais un œil cyclopéen, je ne verrais probablement aucune de ces illusions qui souvent procèdent de la troisième dimension. Mais en fait, je ne ressens pas la correction que j'opère par la vision binoculaire. Bon, Mach veut donc mettre en évidence que les éléments sensoriels sont simplement mis en relation. On pourrait dire, comme un chercheur que j'admire beaucoup, comme Samir Zeki, que la figure qui est là représentée, même si elle présente une figure vraiment curieuse de l'intellectuel en situation correspond quand même à ce qu'on appelle une constance de situation. C'est dans les tableaux de Vermeer, par exemple, qu'on voit très bien ce que signifie cette constance de situation. C'est-à-dire qu'on voit une figure, par exemple une figure féminine, qui déchiffre une lettre, ou on voit une figure féminine qui joue d'un instrument de musique, ou qui se trouve près d'un buffet avec un personnage. Et de quelque façon que nous regardions ce tableau fait appel en nous à une représentation relativement ferme d'une situation qui reste elle-même diversement interprétée. Alors, la position présentée par Ernst Mach en 1886, c'est de rompre avec quelque chose qui est encore très dominant dans la pensée contemporaine, c'est l'assimilation égologique, qui est presque une façon courante de voir les choses en philosophie. Le philosophe qui s'occupe de la perception ne peut pas, peut difficilement accepter cette substantialité du moi. Et il se met dans la situation de comprendre avec Hering, parce que Hering était un collègue de Mach à l'université de Prague, pourquoi, en effet, ce qui nous intéresse, c'est le champ perceptif, dans lequel on ne peut pas dire que le sujet soit vraiment liquéfié ou volatilisé, mais il est vrai que, par exemple, la lumière qui est sur ma main provoque une ombre qui croise l'ombre du micro. Et ça constitue une situation qui est beaucoup plus intéressante à beaucoup d'égards que celle que j'occupe en tant que sujet juridique. De même, je considère un peu dans le champ auditif que, et surtout par rapport à l'appareillage qui est autour de moi, je vais considérer ma langue et ma bouche comme un symbole, indépendamment du fait que ce soit cette langue et cette bouche m'appartiennent, parce qu'ils fonctionnent à l'intérieur d'un environnement donné. Donc, je vais ne pas accepter l'assimilation égologique qui consiste toujours et qui est quand même encore une maladie qui peut affecter certains savants. Beaucoup de cognitivistes travaillent aujourd'hui sur la conscience, et bon, je ne vais pas remettre en question le travail des cognitivistes sur la conscience, mais je pense qu'ils admettront avec moi que ce que Mach et d'autres ont commencé à contester, c'est la centralité du point de vue dans l'analyse de la perception. Donc, si nous conservons l'idée d'interprétation, eh bien, nous pouvons l'attacher à un ensemble de structures représentationnelles. Et rien ne nous dit que ces structures représentationnelles, qui sont bien entendu quelque part implémentées indirectement dans le cerveau, n'ont pas une certaine externalité. C'est-à-dire que c'est un point de vue que j'adopte méthodologiquement avec les étudiants, qui est de se demander s'il ne pourrait pas exister des représentations extérieures. Donc, si nous faisons un compte-rendu de ce qui nous arrive, nous utilisons le langage et nous allons décrire, faire un compte-rendu propositionnel de l'expérience qui est la nôtre. Cette façon de traduire nous permettra de mieux comprendre ce que c'est que l'interprétation. Mais il faut aller au charbon, c'est-à-dire aller dans le terrain du champ perceptuel pour ne pas en rester à des considérations trop générales. Montrons par exemple le transparent numéro 4. Une des choses qui caractérise la perception, c'est la ségrégation des unités et la différence de vitesse que nous avons dans la façon de ségréger ces unités. Bon, généralement, on suppose qu'une somme analogique se produit dans la réception du signal qui se crée par une différenciation et que la réactivité des cellules nerveuses dépend des champs réceptifs des zones corticales qui intéressent la vision, parce que ces champs réceptifs sont déjà orientés dans le cerveau. Alors, comment détecter une bizarrerie dans une cible ? Donc, dans le cas que je présente, la partie qui se trouve à gauche pour vous montre une figure qui émerge, c'est-à-dire qu'on voit très bien les traits qui émergent facilement et ils le font beaucoup plus vite en réponse à des mécanismes d'accompagnement de la descente qui sont plus automatisés. Par contre, dans le schéma que vous avez à droite, où il y a justement disposé un ensemble de L et de T, vous mettrez beaucoup plus de temps, à cause du fait que nous travaillons à la recognition du L et du T, vous mettrez beaucoup plus de temps à isoler les T dans l'ensemble des L. Depuis Yulesh, on suppose que, malgré les distracteurs qui existent dans le champ visuel, la réponse est finalement acquise et construite parce que l'orientation des stimuli externes et celle des champs réceptifs ne posent pas de problème à résoudre. Le problème est pour eux résolu, pour Yulesh résolu. C'est une sorte de parallélisme. Nous le verrons tout à l'heure avec un exemple d'Ozeki, la force. Mais la position qui était celle de Marr au départ, dans son concept de forme, Gestalt, était de reconnaître une différence entre la quantité géométrique et la qualité directionnelle. Ce qu'on appelle aujourd'hui un quale, une qualité de direction. Voilà pour la ségrégation, si on va sur le terrain proprement dit de la manière dont s'opère ou non la ségrégation. Deuxième point, par exemple, l'attention. C'est une chose qui est très, très intéressante à étudier et très mystérieuse, puisqu'un cognitiviste comme Pachler dit que pratiquement il faut se passer du mot, que le mot pour lui n'a pas de signification précise dans les travaux pourtant importants qu'il a consacré à l'étude du phénomène attentionnel. Alors pour nous, c'est important parce que, enfin, c'est important, ça compte, parce que souvent, nous avons un fenêtrage de l'attention, nous essayons de découper quelque chose qui nous intéresse plus, et d'autre part, parce que nous avons une nécessité biologique à être souvent distrait pour limiter l'attention à ce qui correspond à nos finalités les plus captivantes. Alors, il y a des limites dans l'attention, dans nos capacités de détection perceptive, et le résultat empirique auquel on a abouti aujourd'hui, c'est de dire que nos capacités de détection perceptive de la forme d'une lettre, par exemple, sont fondamentalement différentes de nos limites dans les capacités à détecter des unités verbales, que ce soit des unités écrites, des mots, ou des unités entendues. Alors pourquoi ? Parce que il y a des saccades de l'attention, et ces saccades de l'attention qui ne sont évidemment pas les mêmes que les saccades des mouvements oculaires, mais qui se mesurent, on arrive à mesurer cette saccade de l'attention. Donc le champ dont j'ai l'expérience supposée directe en face de moi quand je perçois quelque chose, il est ségrégé, il est soumis à une attention qui est elle-même trouée et saccadée. Et enfin, et se pose le problème de la recognition des objets. Alors, les gestaltistes, là aussi, ont été les premiers, je crois, enfin, c'est à travers le travail de Wertheimer. Wertheimer a publié donc ses lois de la gestalt en 1923. Les gestaltistes ont été les premiers à essayer de déconsidérer l'illusion et de s'en servir autrement que comme d'un trick, d'un trucage, en quelque sorte. Or, dans les travaux qui ont été menés à partir des années 1970, les théories gestaltistes ont pris un grand coup de vieux. Et en même temps qu'elles paraissaient obsolètes, parce que beaucoup de choses ne collaient plus dans le cadre de l'explication que nous avions, eh bien, les intuitions premières de la gestalt ont été abandonnées. Par exemple, Shepard dit ceci, « Notre expérience, je le cite, nous donne l'illusion d'avoir un accès direct au monde externe. Notre expérience nous donne l'illusion d'avoir un accès direct au monde externe. Notre perception d'un environnement tridimensionnel stable, continu et durable, ne comporte aucune trace du mécanisme neuronal prodigieusement complexe qui engendre aussi rapidement cette expérience. » Autrement dit, pour Shepard et pour tous ceux qui travaillent dans la direction de l'image mentale, eh bien, l'accès direct au monde extérieur, c'est une illusion, c'est une méta-illusion, c'est l'illusion de toutes les illusions. Or, si on regarde bien les choses, en prenant même les termes que Shepard invite à discuter depuis maintenant une trentaine d'années, on fait une comparaison de la relation qui existe entre les projections des objets sur les deux images rétiniennes, qui permet de déterminer leur distance, dans un espace en trois dimensions. Autrement dit, je crois que si on demandait à un enfant ou un adolescent qui regarde beaucoup de bandes dessinées pourquoi il y prend du plaisir, c'est parce que constamment, en effet, il doit corriger le facteur d'estimation de la distance par la parallaxe binoculaire qui entre en jeu, dans la façon dont il lit, dont il regarde même la page de la BD. Alors, faire appel, comme le fait Shepard lui-même, en disant que finalement les plus grands illusionnistes ce sont les artistes, faire appel à des considérations esthétiques peut pour certains apparaître comme une faiblesse théorique. L'artiste serait selon lui l'expérimentateur des anomalies visuelles. C'est une thèse assez bizarre, qui vaut surtout pour Magritte, bien sûr, qui vaut surtout pour Escher, pour Magritte, mais je ne pense pas qu'elle soit valable autrement. Shepard donne même un exemple tout à fait amusant, que je trouve vraiment amusant, d'un œuf dur qui a été énucléé de son jaune, et qu'avec un ami, il remplace sur le levier de changement de vitesse de sa voiture. Et Shepard nous dit qu'il éprouve une sensation indescriptible, c'est le mot, à conduire sa voiture en manipulant l'œuf dur. Bon. La thèse donc qui est ici présentée, que je conteste, c'est que les dessins qui sont présentés comme des illusions épistémologiques, qui sont des illusions qui ont un impact et une charge épistémologique forte, peuvent tromper l'œil pour nous donner justement une idée de la nature et de la source de la perception visuelle. Autrement dit, pour comprendre tous ces artefacts, il faudrait, dit Shepard, un Judas, il faudrait voir à travers un petit trou, observer la scène d'un point de vue monoculaire. Et il va un peu plus loin encore en disant, c'est un Scoli, mais c'est important, il dit que chaque fois qu'on regarde un tableau, une peinture, ou chaque fois qu'on écoute quelque chose, mais enfin c'est encore plus net pour un tableau, eh bien il faudrait, dit-il, qu'on se place dans la perspective qui est celle de regarder à travers un Judas. Or, le caractère dynamique de la perception, justement, me paraît ici manqué. La tendance générale de ces chercheurs, qui est d'abord la tendance standard aujourd'hui, est de dire « Nous projetons une interprétation tridimensionnelle sur toute matrice visuelle qui pourrait valoir ou tenir lieu de la projection d'un objet en trois dimensions. » Grégory, dans ses ouvrages très remarquables, extrêmement intéressants, lui aussi réduit les illusions par élimination à une perspective plaquée sur, le plan. Alors, la chose qui m'intéresse le plus, c'est de comprendre comment l'expérience directe n'est pas une perception directe. Et comment l'expérience directe de l'interprétation n'est pas justement une perception directe. Prenons le transparent 5, qui est un petit morceau d'une illustration du Nuncius Sidereus de Galilée, dont j'emprunte l'explication au livre de Casati, La découverte de l'ombre. Voilà un bon exemple qui nous ramène brutalement en arrière sur la façon d'observer et le lien qu'il y a, qu'a évoqué Michaud, la nature de l'observation, entre les prolongements de l'observation et le contenu de l'observation elle-même. Vous remarquez dans ces deux présentations de la Lune qu'il y a en plein milieu, enfin, pas exactement dans le milieu, dans le deux tiers, un cratère. Bon. Alors, comme le dit très bien Roberto Casati, un tel cratère, s'il existait, serait visible à l'œil nu. Et on est en situation de se demander si Galilée ne fait pas comme Shepard, c'est-à-dire s'il ne construit pas un artefact. En fait, nous savons que Galilée a pris des lavis de ce qu'il a observé sur la Lune, et ce qu'il observe, bien entendu, ce qui est pour lui épistémologiquement intéressant, c'est l'ombre, c'est-à-dire la manière dont l'ombre va devenir un instrument de découverte scientifique. Alors, dans le lavis original de Galilée, il n'y a pas le cratère. Bon, il y a quelque chose comme un demi-cercle, mais il n'y a pas le cratère. Pourquoi, en donnant des instructions à son graveur pour l'impression du Nuncius Sidereus, Galilée a-t-il à 5 reprises insisté pour que cette délimitation ait lieu? La réponse que l'on peut faire, enfin, que fait Casati, c'est de dire que le cratère est didactique. D'ailleurs, il y a même un texte de Galilée, tout à fait surprenant, indiquant qu'il a eu l'impression de voir la Lune avec des chaînes de montagnes, comme un paysage de Bohème. Et on ne comprend le sens de cette illusion didactique et perceptive que si on regarde bien effectivement dans le cratère, où l'on voit, en grossissant l'un et l'autre de ces cratères, qu'il y a en effet une petite lune dessinée par l'ombre dans la lune, qui est symétrique de part et d'autre. Donc au fond, cette transformation de l'ombre va être un élément décisif, puisque tout de suite après on découvre que Vénus ne brille pas de sa propre lumière, qu'il y a effectivement, même si nous ne la voyons pas, mais il y a effectivement des phases de Vénus. Et dans un autre cas encore plus surprenant, qui est exactement contemporain, Gassin dit, qui a eu l'idée de reproduire en 1631 des images du soleil dans la chambre noire, voit un point qui prend pour une ombre sur le soleil, pour une tache d'ombre. Est-ce une illusion ? Il faudra attendre très longtemps avant qu'on découvre la justesse de l'observation de Gassendi, car ce point qui bouge et que Gassendi voit bouger cette ombre mouvante, eh bien, c'est le passage de Mercure qui fait une tache d'ombre sur le soleil. Donc on peut dire que le statut épistémologique de l'illusion est compliqué. On ne peut pas laisser simplement aux gens qui travaillent sur les illusions géométriques l'impression que nous avons une parfaite description de l'attribution causale des mécanismes d'inhibition, sans voir la longue découverte qui permet aussi de penser le trucage par la dissemblance. Montrez, s'il vous plaît, le transparent numéro 6, qui est un transparent de Taggart et que j'aime beaucoup. Le lapin qui se complique vraiment la vie, comme on dit. J'aborde maintenant ma deuxième partie, qui sera un peu plus philosophique, qui s'appelle « Voir comme autrement ». Pourquoi est-ce que le lien entre la façon de traiter les illusions et la façon de concevoir le lien épistémologique de l'illusion à ce qui est métaphysiquement des entités, ce que j'appelle des entités parce que je ne sais pas très bien comment les appeler, est important? C'est parce que il y a des choses que l'on saisit par Einsicht, comme on dit en allemand, par Insight, comme on dit en anglais, c'est le même mot, c'est-à-dire qu'on saisit d'un coup. Et c'est Wittgenstein, qui est mort il y a exactement 50 ans, en 1951, qui a mis l'accent lui aussi, dès le départ, sur la double aspectualité, c'est-à-dire ces figures bistables qu'on a remarquées dans le monde géométrique. Et je voudrais insister là-dessus parce que c'est un petit peu moins connu sur un point de détail. Il faudrait peut-être mettre le transparent du texte que je vais lire rapidement parce qu'il est peu déchiffrable. Considérons ce que l'on dit d'un phénomène comme celui-ci, voir la figure F, tantôt comme un F, tantôt comme l'image d'un F dans un miroir. La question que je veux poser est la suivante. En quoi consiste le fait de voir la figure tantôt d'une façon, tantôt d'une autre ? Zo Anders. Est-ce que je vois effectivement chaque fois quelque chose d'autre, ou bien est-ce que j'interprète seulement de façon différente ce que je vois ? Je pencherai pour la première réponse, c'est-à-dire voir et non pas interpréter. Mais pourquoi ? Eh bien parce qu'interpréter est une activité qui peut consister par exemple à dire « ce doit être un F » ou à ne rien dire et à se substituer au signe dans une copie, et à substituer au signe dans une copie une lettre F. Ou encore à se demander « qu'est-ce que cela peut bien être ?» Probablement un F mal écrit. Voir en revanche n'est pas une activité, comme interpréter, mais un état, « Zustand ». Et donc c'est exactement le contraire de ce qu'on dit aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, la thèse admise et qui me paraît admissible, c'est que voir est un processing, comme on dit, un processus, un traitement. Et ici, Wittgenstein nous dit que voir est un état. Comment donc en est-on venu à ce concept voulant que nous voyons cela comme cela ? En quelles occasions ce concept a pris forme ? Et dans quelles occasions le besoin s'en est-il fait sentir ? Besoin très fréquent lorsque nous discutons d'une œuvre d'art, entre parenthèses. Là où, par exemple, il s'agit d'une question de phrasé pour l'œil ou pour l'oreille, nous disons « il faut que tu entendes cette mesure comme une introduction, il faut que tu écoutes cette tonalité ». Mais aussi, j'entends le français « ne pas » comme une négation faite de deux parties et nullement comme signifiant « non ». Un bas. Je serais tenté de dire que la phrase « je vois cette figure comme l'image d'un F dans le miroir » n'est qu'une description indirecte de mon expérience. Il y en aurait alors une autre qui serait directe, à savoir « je vois la figure ainsi, zo ». en quoi j'interprète pour moi-même mon impression visuelle. D'où nous vient cette tentation ? Il y a là un fait important, qui est que nous sommes prêts à laisser valoir diverses descriptions de notre impression visuelle. Par exemple, la figure regarde maintenant vers la droite et maintenant vers la gauche. Mettons la lettre F sous observation. Les barres penchent soit à droite, soit à gauche. L'axe est incliné vers la droite. Le F de Wittgenstein est tracé peut-être maladroitement. Si la figure avait des barres horizontales un peu plus ensaillies à gauche, il y aurait une interprétation. Ce n'est pas, semble-t-il, le cas. Et l'image que je présente est celle de Bozzi, qui, en bon léonardien, vous savez que tous les codices de Léonard sont écrits de telle manière qu'on doit les lire avec une petite glace, parce qu'il écrivait tout précisément pour que ce soit déchiffré par le miroir. Donc il a présenté ce que Wittgenstein entend dire. Pourquoi dit-on donc que voir est un état ? On pense au texte de Köhler, Les Gestaltenphysiken in stationären Zustand, un texte de 1919, le premier texte de Köhler, qui présentait la thèse principale de l'isomorphisme gestaltiste, c'est-à-dire dans le début, enfin dans le premier tiers du 19e siècle, du 20e siècle, disant que les objets de la perception sont des systèmes, des petits systèmes, présents à la conscience sous divers états, lesquels sont la face observable d'états physiques du cerveau. Interpréter est une action, voir, c'est avoir présent dans le champ de l'expérience directe un état observable de ce genre. Cet état est l'ensemble des données rencontrées avec l'objet pendant l'observation, comme en effet le fait ici de faire que le projecteur envoie une lumière fusante sur mon stylo bille me renseigne évidemment sur la situation du projecteur, mais aussi crée un événement qui est tout aussi complet que l'événement du projecteur dans la salle. D'où certaines considérations constructivistes que je vais adopter et conjuger naguère idéalistes. On va montrer le transparent suivant. Nous avons donc ici trois cas. Le premier, c'est encore une fois le F de Wittgenstein. Le B qui est au milieu, c'est la figure de Rubin dont je parlais tout à l'heure en commençant, qui est bien connue, qui suppose une instabilité de la figure sans intervention volontaire. L'intention de voir est facilement corrélée, elle n'est même pas nécessaire dans tous les cas. Nous avons un balancement interne à la figure, nous voyons très bien la coupe ou le visage, ou les deux visages. Nous n'avons pas besoin de provoquer, comme dans le cas de Wittgenstein, mentalement un changement d'inclinaison de la barre centrale du F. On ne résout pas une crise. Pourtant, le choix de Wittgenstein n'est pas mauvais, puisque le changement n'est pas ramené à une interprétation physicaliste du voir. Interprétation physicaliste du voir que nous produisons maintenant, chaque fois que nous changeons de transparent. Le fait de prendre une figure pluristable comme objet spécifique pourrait nous conduire à l'idée que tous les objets d'observation qui nous entourent sont multistables. Ce point de vue systématique, qui peut être défendu de façon radicale, il l'a été par exemple aussi dans certaines parties du travail de Jacques Nignot, celui d'une normalisation des illusions, rencontre quelques objections que je vais présenter maintenant. La figure C, la dernière, est la plus mystérieuse. Car ce n'est qu'avec la troisième, je ne sais pas si on la voit bien, que nous rencontrons vraiment une interprétation. Dans cette figure, il n'y a rien qui bascule, mais on peut y voir une pièce de monnaie, un cigare, un disque volant, une tranche de jambon, tout ce que vous voulez. Je ne vois pas une chose ou une autre.
il n'y a eu aucune transformation qui change le rapport. Seul le contexte cognitif du voir doit être présent à l'observateur sous peine de trucage. Je dirais qu'à partir de là, on comprend pourquoi il y a des qualités expressives, que j'appellerais, c'est un vieux terme, des qualités tertiaires, vous savez que Locke parlait des qualités primaires et des qualités secondaires, moi j'appellerais ça des qualités tertiaires, qui ne sont plus tellement de mode aujourd'hui, et on les a remplacées par les affordances, c'est-à-dire, après Gibson, par l'idée qu'il y a des propriétés de plus, des propriétés dispositionnelles des objets, qui leur donne en quelque sorte une phénoménologie physionomique. Le phrasieren, ce que je reproche à Wittgenstein, c'est le phrasieren, c'est-à-dire d'avoir déphysionomisé le F, en proposant plusieurs fois d'ailleurs des T, auxquels il ajoute un petit R, ou même des formes de potence, où on ne reconnaît plus un F, mais une potence. Alors que dans le monde des qualités expressives, de la bistabilité et de règles. C'est pourquoi, d'ailleurs, Wittgenstein nous parle d'exemples musicaux. Si on choisit une description pour la réalité, que se passe-t-il ? Voici un autre transparent dû à Bozzi, qui peut paraître tout à fait charmant, où vous remarquez deux espèces de strabisme à partir de l'illusion de Müller-Lyer. Mais le point qui représente la pupille se trouve dans les deux cas au centre. Je lis ce que nous dit Bozzi à cet endroit. Il nous dit « L'illusion optique n'est pas une illusion, mais une habitude linguistique accrochée à un fait bien réel. » Enfin, maintenant, pour terminer, je voudrais aborder dans le dernier point de mon exposé la possibilité de mettre certains phénomènes esthétiques sous observation. Et je reviens encore une fois à mon idée de départ. Nous avons présenté un exemple très simple qui est l'exemple du carré et du diamant, le transparent numéro 10, s'il vous plaît, si je ne me suis pas trompé. Bon, alors cet exemple est très, très, très connu, très simple, il est présenté par Marr, mais l'important c'est la manière dont Ernst Marr explique cette chose. Évidemment, la quantité de blanc qui est à l'intérieur de l'image est géométriquement absolument la même. Mais Marr est attentif au fait que l'orientation du losange, du rhombe ou du diamant par rapport au carré excite diversement dans le traitement de bas niveau, c'est-à-dire dans le traitement de la rétine, et il était très préoccupé par la possibilité qu'on avait à cette époque-là d'isoler la sensibilité rétinienne proprement dite, ou ce qu'on appelait les énergies spécifiques de la rétine à ce moment-là. Mais sa découverte est importante sur le plan esthétique. D'abord parce qu'elle va lui permettre de dire que les formes, gestalten, les formes, ont une puissance décorative. Il va d'ailleurs développer lui-même dans plusieurs points la rythmicité et l'importance de ces formes, qui ne sont pas seulement d'ailleurs visuelles, puisque le rythme, qu'il s'agisse du rythme du pas, qui aujourd'hui dans un andante est bien dirigé, entend le rythme du pas. Bon, à la limite, même les chefs ont souvent besoin de retrouver ces qualités gestaltiques pour savoir exactement comment les différentes mesures se suivent. Parce qu'il y a en effet, par exemple, une gestalt beethovenienne, une certaine manière d'enchaîner les mesures qui ne correspond pas du tout à celle de Schubert. Alors, ce qui est frappant, c'est que cet exemple va être retenu par un lecteur qui se trouve très très loin de Ernst Marr, qui se trouve en, en Russie, parce que pour des raisons très précises, le livre de Marx a été traduit immédiatement en russe, et c'est pour cette raison que Lénine, le seul philosophe que Lénine ait directement attaqué, c'est Ernst Marx, bon, dans Matérialisme et Empirio-Criticisme, en disant voilà la déviation la plus dangereuse qui réduit le monde à un ensemble de sensations et qui nous fait perdre, évidemment, la réalité. Le livre, l'analyse des sensations, a eu beaucoup de succès en Union soviétique, enfin, l'ex-Union soviétique, la Russie d'alors, et quelqu'un comme Malevitch est tellement frappé par cet exemple qu'il va gouverner l'ensemble de son expérience esthétique autour de ce travail, consistant en effet à essayer de placer le carré ou le losange dans des situations où des qualia directionnels, des qualia différents, donc de ceux qui orientent généralement le regard de quelqu'un qui considère un tableau, se trouvent mis en avant. Et on voit très bien que les artistes qui ont par la suite réfléchi sur cette possibilité ont expérimenté, sans vraiment le savoir encore, une découverte qui a été faite donc il n'y a pas tellement longtemps sur les aires corticales du cerveau. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, montrer le transparent numéro 13 que j'extrais de Semir Zeki. Bon. Alors donc, les zones qui sont là en couleur, indiquées à gauche, sont aujourd'hui reconnues comme celles qui s'occupe évidemment prioritairement du traitement du processus en question dont je parlais tout à l'heure. Bon. Mais ce qui est, à mon avis, intéressant dans le travail contemporain de Zeki, ce n'est plus de dire que l'œil... Enfin, pour le philosophe, ce sont des déclarations qui sont extrêmement choquantes. Bon, l'œil pense, bon, ou bien le cerveau voit. Je veux bien que grammaticalement le cerveau voit soit une phrase correcte, mais ce n'est pas une proposition qui est immédiatement évidente. Alors, ce qui frappe dans les analyses qui ont été menées par Zeki, c'est le fait qu'il a étudié les différentes couches hiérarchisées de ces zones pour remarquer qu'elles obéissaient à des orientations extrêmement intéressantes, et il en arrive à la conclusion que, pour lui, un tableau de Joseph Albers, un tableau de Malevitch, un tableau de Velázquez doivent être évalués, pour le plaisir qu'ils nous donnent, aussi en fonction de leur plus ou moins grande correspondance avec les tissus hiérarchisés du champ réceptif cérébral. Alors, il fait un exemple avec Velázquez, par exemple, qui nous paraît, à première vue, très surprenant. C'est le transparent 14. Dans ce tableau de Velázquez, Zeki isole. Est-ce qu'on voit quelque chose? On voit rien. Il faut agrandir la partie haute d'abord. Voilà. Il isole une partie intéressante de l'anatomie de cette personne, et une partie critique aussi. Partie critique. Et il nous explique que le traitement de cette si on fait attention à cette partie-là du tableau, eh bien, la réussite du tableau vient, parce que c'est effectivement au centre du tableau, la réussite du tableau viendrait de ce que un champ approprié, une série de couches appropriées de cellules sont en quelque sorte saturées dans leur réponse par cette chose. Yves prend un autre exemple encore plus troublant avec Malevitch, transparent numéro 15, où il nous montre que, donc ça c'est un tableau de Malevitch qui est en dessous, et en haut, il fait un test en faisant de faux Malevitch avec, donc, vous voyez, un carré, une zone bleue sur un fond noir, et à droite, une zone bleue sur un fond blanc. Il remarque évidemment que bleu sur le fond blanc provoque une réaction beaucoup plus intense. Donc, il en déduit que Malevitch a expérimenté à l'avance, enfin, il a en quelque sorte anticipé sur ce que nous découvrons aujourd'hui. Si on regarde maintenant un tableau plus mystérieux qui est celui de Joseph Albers, qui me trouble profondément, qui est l'hommage au carré de Albers. Là, évidemment, je ne sais pas si on voit quelque chose. Il y a trois carrés jaunes qui sont avec des différences d'intensité dans le jaune, placés l'un dans l'autre. Zeki, d'une façon très intéressante, nous montre que la réussite du tableau, qui doit être regardée de près, comme les tableaux de Roscoe, pour que tout le champ rétinien soit occupé et distrait par rien d'autre, correspond le mieux, par la structure même des cellules d'accueil, à ce que l'on peut attendre de la réponse jaune. Et donc, de ce point de vue, les critères d'évaluation d'un tableau comme celui-là pourraient, selon Zeki, aller dans le sens d'une leçon cognitiviste qui est intégrée par les artistes et qui est, en quelque sorte, inscrite aussi dans l'expérience que nous devons refaire après eux, à supposer que nous ayons une expérience à refaire après eux. Je terminerai d'un mot en prenant l'exemple du Doge de Venise par Bellini, qui est un exemple très intéressant de... pourquoi cet exemple est à l'envers, là ? Merci. Alors, il faut grossir le visage, s'il vous plaît. Faire un zoom sur le visage. Voilà. Merci. Alors, vous voyez l'œil, la double aspectualité. Pourquoi ce portrait est une figure bistable ? Eh bien, parce que il faut regarder l'œil droit, il faut regarder l'œil gauche. Si on regarde l'œil qui est pour vous à gauche, cet œil fixe marque la dureté du doge. Alors que si on regarde l'œil droit, vous lui trouvez quelque chose de paterne et de faussement bienveillant qui vient en quelque sorte entrer en conflit avec ce que le peintre a montré de l'autre œil. Les ombrages, la zone d'ombre sur la figure de Bellini sont étudiées dans ce sens. Et je crois que c'est un bon exemple de ce que j'appelle l'application du voir comme aux objets esthétiques mis sous observation. Merci.
Bonsoir monsieur, je vous remercie pour votre conférence. J'aurais deux questions. Savoir ce que vous pensiez des illusionnistes comme les magiciens et savoir également si la notion d'illusion était valable chez les animaux. Merci.
Alors l'illusionnisme des magiciens est une chose qui s'appuie sur les données de la perception naturelle. C'est un prolongement sophistiqué. Alors nous avons plusieurs moyens, même techniques, comme les anciens stéréoscopes qui permettaient de proposer des illusions de représentation licencieuse ou même des illusionnismes portant sur la structure de Paris, puisqu'il y avait des formes d'illusion qui mettaient la rive gauche sur la rive droite, hein, avec d'autres bouleversements. Donc je crois beaucoup à la positivité des illusionnistes et des magiciens qui exploitent toutes les corrections que nous pouvons faire d'une façon beaucoup plus subtile que le commun des mortels. Alors pour les animaux, eh bien, je ne connais comme réponse que la mimétisation. Est-ce qu'on peut dire que les animaux sont victimes ou créateurs d'illusions? Je pense que nous ne sommes nous-mêmes que des animaux supérieurs, et donc je ne pense pas impossible de donner une règle, d'ailleurs je crois que ça a été fait, une règle pour les formes de simulation animale. Seulement, comme je ne m'intéresse qu'à la perception naturelle des êtres humains, ce que je sais simplement, c'est que si une abeille regarde la télévision ou le cinéma, elle voit beaucoup de blanc, elle ne voit pas du tout Je pense que cette possibilité que nous avons de partir des animaux pour expliquer les illusions dans la perception naturelle est une voie d'explication qui ne mène pas loin. Ça peut valoir très bien dans l'éthologie animale. Je ne pense pas qu'on puisse déplacer des modèles qui viennent de l'éthologie animale au modèle, même si Köhler l'a fait pour le chimpanzé. En effet, Köhler l'a fait pour la solution de problèmes. Les chimpanzés pouvaient résoudre des problèmes à partir de... Ils leur faisaient des trucs, et ils essayaient de les tromper, et ils arrivaient quand même à trouver une solution.
J'aimerais poser deux questions, ou trois. Lorsque nous sommes victimes de l'illusion dans un trompe-l'œil, est-ce que c'est la même nature que lorsqu'on regarde une ombre chinoise? Je pense que dans l'ombre chinoise, nous savons déjà que nous allons avoir une illusion qui nous est présentée, alors que dans le trompe-l'œil, on est immédiatement confronté à l'illusion sans le savoir. Est-ce que ça ne serait pas un peu la même chose lorsque l'on voit un tableau de Malevitch ou un tableau de Mondrian? Le recours à l'illusion est plus géométrique chez Mondrian, il est plus lumineux chez Malevitch. Est-ce que je me trompe? Et enfin, lorsqu'on mélange des disques, lorsqu'on fait passer des disques de couleurs complémentaires, oui, les uns sur les autres, est-ce que c'est nous-mêmes qui créons la couleur obtenue, ou est-ce qu'il y a réellement un phénomène physique de création de couleurs à partir des deux couleurs complémentaires? Merci.
Oui, il y a un phénomène physique qui n'empêche pas qu'il y ait une couleur subjective. C'est pas du tout contradictoire. Alors, pour ce qui est de la deuxième question qui regarde justement le rôle dans l'histoire de la peinture du XXe siècle de Mondrian et de Malevitch, c'est une chose qui est justement intéressante dans le travail qui est mené aujourd'hui dans les études qu'on appelle en général cognition and art. C'est le lien entre le travail en recherche cognitive et l'esthétique d'aujourd'hui, c'est que l'enregistrement, puisque nous avons eu des exposés sur l'imagerie cérébrale, l'enregistrement que l'on fait en imagerie cérébrale de quelqu'un qui regarde un Mondrian, c'est absolument stupéfiant. C'est-à-dire que le fait de le travail de l'œil sur le tableau révèle qu'il s'agit d'un trompe-l'esprit plutôt que d'un trompe-l'œil. C'est-à-dire que Mondrian a vraiment anticipé sur des capacités de ségrégation et d'analyse que nous avons beaucoup de peine à aujourd'hui même à comprendre, puisque, comme disait Key, il y a 8 mm où je ne sais pas ce qui se passe. Non. Il y a 8 mm dans V4 où je ne sais pas du tout ce qui se passe, et où je vois que quand on a en imagerie cérébrale le témoignage de quelqu'un qui regarde un Mondrian, il y a une activation extraordinaire. mais c'est tellement, c'est sur une couche de 8 mm, alors il dit j'arrive pas, il y a énormément de choses qui se passent. Donc si vous voulez, c'est vrai pour Mondrian particulièrement. Alors il donne une explication, une hypothèse sur la collinéarité, le colonnage de certains neurones qui ferait que nous aurions en quelque sorte que Mondrian aurait compris une des structures fondamentales de la structuration du champ visuel. Alors pour Malevitch, c'est différent. Pour Malevitch, il y a d'une part cette idée que Malevitch va... il y a aussi un travail, vous savez, chez Malevitch, sur des croix, sur des couleurs qui sont coupées par des carrés, donc des rectangles de couleurs qui sont coupées par des carrés. Et ça correspond plutôt à la nécessité de ne faire travailler qu'une série de cellules qui sont sensibles, par exemple, à un rouge très intense, ou qui sont sensibles au rapport entre le rouge et le noir, et on les fait travailler l'une par rapport à l'autre. Autrement dit, attribuer un sens révolutionnaire ou aux propos suprématistes un sens, c'est une chose qui relève de l'interprétation de l'histoire de l'art, mais il est aussi vrai que les œuvres d'art ne sont pas dans le champ perceptif comme des objets ordinaires, et que si elles ont cette capacité de provoquer en nous une telle réaction, même une réaction d'hostilité ou iconoclaste, c'est parce qu'elles mettent en jeu des mécanismes sans doute très profonds. Et pour la première question,
oui, la première,
qui était celle des ombres chinoises.
Trompe-l'œil et ombres chinoises.
Oui. Alors, bon, en fait, ce sont deux choses très différentes, parce que les ombres chinoises, là, nous, c'est ce que j'ai expliqué avec l'exemple emprunté à Taggart du lapin. Le lapin... les ombres chinoises sont des ombres découpées que nous pouvons attendre de voir se produire. Bon, tandis que le trompe-l'œil est un objet physique qui, en particulier dans la perspective ou dans d'autres formes encore plus fines, réussit par des effets de texture ou des effets de profondeur à accréditer quelque chose de comme une qualité tertiaire de la troisième dimension. Les qualités tertiaires, c'est très difficile à expliquer. C'est un esthéticien américain qui s'appelle Santayana, d'origine mexicaine, qui disait... il y a le beau, il y a les choses qui sont belles, les choses qui sont laides, et puis il y a les choses qui sont simplement jolies, ou agréables, ou touchantes. Et je ne sais pas très bien comment les classer. Alors, il avait appelé ça des qualités tertiaires. Mais c'est vrai que c'est sans les quales, sans les qualia, c'est-à-dire cette capacité que nous avons à classer et à reconnaître des sortes de qualités, bon, il n'y aurait pas d'expérience esthétique. Alors, le trompe-l'œil, c'est une sorte de qualité tertiaire de la 3D. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'ajoute en plus dans une confection ou un artefact qui est fabriqué pour posséder en plus des réquisites représentationnels de la troisième dimension, quelque chose comme une qualité supplémentaire de texture ou d'autres aspects particuliers, parce qu'il y a plusieurs sortes de trompe-l'œil. Il y a des trompe-l'œil qui sont peints, il y a des trompe-l'œil... il y a par exemple, une galerie américaine, j'ai vu un coussin en bois, veiné, en pin, qui était comme un coussin sur lequel on pouvait s'asseoir. C'est aussi un trompe-l'œil, mais là c'est un trompe-l'œil sur la pondération de l'objet.
Est-ce que vous pouvez revenir en fait sur quand vous avez parlé de Wittgenstein et de la controverse à propos de
voir et interpréter.
Voir et interpréter, c'est ça exactement. À quel niveau est-ce que se situe le sujet de la controverse? Est-ce que pour Wittgenstein, le F étant pour quelqu'un qui a appris à lire depuis sa petite enfance est capable de le reconnaître instantanément et donc il ne passe pas par un phénomène de langage dans lequel, avec une petite voix intérieure, il a à se dire « j'interprète ça comme un F, c'est un F oui. ». Ce qu'il a à faire, par contre, dans le cas du F renversé, parce qu'on n'est pas habitué à voir des F dans un miroir. Est-ce que c'était bien ça le sujet? Et en quoi est-ce que
les modernes, enfin ceux que vous avez présentés comme les modernes, ne sont pas d'accord.
Wittgenstein a très mauvaise presse parmi les théoriciens représentationnalistes du mental, chez les fonctionnalistes, etc. Parce que effectivement, il a laissé autour du voir comme et avec l'usage du mot, à la place du comme, il a effectivement laissé à l'interprétation une marge assez floue. Lui-même n'a pas vraiment précisé ce qu'il entendait par interpréter. On peut ne pas avoir une conception herméneutique de Deuten, de l'interpréter dans ce cas-là. Bon, il s'agit simplement, pour lui, probablement, interpréter, ça veut dire bon, quel genre d'activité je peux faire, est-ce que je peux manipuler la figure dans tel cadre ou non. Bon, voilà. Tandis que le voir simple, c'est la reconnaissance directe qui ne me permet pas de muter l'aspect, de faire bouger l'aspect. Si je suis dans une situation où je peux muter, c'est-à-dire faire en quelque sorte jouer la bistabilité ou la double aspectualité, alors je suis dans la situation d'interpréter. C'est-à-dire que je suis dans la situation de produire une phrase également qui va donner un contenu et un désignatum rigide. C'est-à-dire, je vais dire, bon, cette chose est un cigare ou une tranche de jambon ou une chaise ou quelque chose comme ça, ou une marche ou une caisse. Bon. Donc, vous voyez bien, cette chose est, j'ai nominalisé, c'est-à-dire que j'ai produit par le substantif l'appel à la référence directe d'un objet dans le monde. Et c'est en ce sens qu'interpréter nous engage dans des activités, pour Wittgenstein, dans des Handlungen, qui ne sont pas le voir.
Quand vous avez dit à la fin pour, que le doc de Venise avait un œil qui voyait d'une façon gentille et l'autre œil d'une façon méchante. Excusez-moi, mais j'ai trouvé que les deux yeux étaient gentils. Alors, est-ce qu'on peut dire que le monde n'est que ma représentation, comme disait Schopenhauer ?
Oula ! Oui, alors non. Non, le monde n'est pas que ma représentation. D'abord parce que si on peut reprojeter le Bellini, on verra bien qu'il y a dans le travail qu'a fait Bellini, il y a un défaut dans la vision. Il y a un très léger strabisme divergent. Il y a un problème de vision chez le Doge. Bon. Donc les deux yeux ne sont pas dans le même axe. Et ils ne sont pas ombrés de la même manière, ce qui fait que je crois que si on regarde un portrait de Fantin Latour, un autoportrait, par exemple, bon, moi, ça a toujours été pour moi une occasion de réflexion gestaltique. Je considère que les têtes de chevaux de Géricault, puisqu'à la fin, Géricault n'a plus fait que des têtes de chevaux, sont des autoportraits. C'est-à-dire que Géricault a décidé, c'est extrêmement troublant de voir... l'expressivité qui donne aux têtes de chevaux, ce sont véritablement des autoportraits. De même pour l'usage vraiment excessif que fait Picasso des mandolines qui fonctionnent comme des visages, qu'on doit voir comme des visages. Hein ? C'est-à-dire que dès l'époque où ça a été fait, ça a été réalisé comme ça. C'était réalisé non pas comme un trompe-l'œil, non pas comme... l'expression de trompe-l'esprit et de Picasso, que j'employais tout à l'heure. On lui disait, mais alors vous faites des trucages. Il disait, ce sont des trompe-l'esprit. Bon, dans une manière bien de faire comprendre qu'à travers, un portrait... c'est une des zones du cerveau, une des zones ventrales du cerveau qui aide à la recognition des visages. On sait qu'il y a des lésions et qu'il y a des gens qui sont lésés sur cette partie du cerveau, ne peuvent plus reconnaître les visages. Donc, c'est très important de voir pourquoi les peintres ont multiplié le portrait. Parce que le portrait est sans doute une des façons de physionomiser... D'abord, au plan interactif, au plan social, au plan humain, c'est très important de pouvoir représenter, par exemple, soit des gens d'une façon méprisante, soit des gens d'une façon hautaine, en déterminant socialement les caractères du portrait. Mais dans le cas dans certains cas particuliers, comme chez Courbet, chez Fantin Latour, ou dans ce cas de Bellini, il y a une expérience perceptive, il y a une expérience de structuration du portrait qui, si elle est acquise, ce n'est pas que vous, vous voyez le Doge de Venise comme ceci et moi comme cela, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose dans la taille des orbites, dans la façon dont les yeux sont dirigés, dans leur fixité, qui incite à cette bistabilité.
En fait, je reviens sur le problème des illusions chez les animaux. Et je me demandais si le phénomène de mimétisme et de camouflage de certains animaux, par exemple les phasmes ou le caméléon, qui en fait abusent d'autres animaux, dont parfois nous-mêmes, ne peut pas être considéré comme une illusion qui à ce moment-là s'appliquerait aux animaux.
Oui, mais on ne peut pas traiter de toutes les illusions, de l'illusion d'avoir raison, de l'illusion de plaire, de l'illusion. Donc ça, il y a effectivement un usage sémantique. Là, il faut faire très attention sur la sémantique du mot illusion. Bon, le caméléon se défend. On ne peut pas dire que la mimétisation soit un processus identique au processus que nous avons décrit. Il est évident que nous-mêmes, nous sommes, je reviens sur cette question des animaux pour finir, parce que c'est très important, nous-mêmes, nous avons un cerveau physique qui est pris dans un monde physique, et nous avons un environnement où l'implantation de ce cerveau dans le monde physique se fait par des décalages et par des corrections. Et on appelle ça la perception. Bon. C'est-à-dire que ça sent l'odeur du neuf dans votre voiture, où ça sent l'odeur de pourri quelque part, et il y a des reconnaissances gestaltiques très fortes, qui sont universelles. Hein. C'est la charogne et les excréments, c'est reconnu par tout le monde. C'est-à-dire qu'on a une détection de cette information qui est absolument irrésistible. Bon. Eh bien, nous avons donc un cerveau physique, un système, qui est pris dans un monde physique. Alors, ce qui est métaphysique, c'est de dire comment est-ce que ce cerveau physique est dans un monde physique. Par conséquent, nous sommes des animaux qui ont cette capacité de placer la relation à l'environnement, de situer la relation à l'environnement, que cet environnement soit social, moral, parce que cet effet d'illusion et de simulation ne vaut pas seulement pour les caméléons, mais il vaut pour toutes les personnes qui nous entourent. Pas seulement. Pourquoi voudriez-vous qu'il y ait une différence spécifique entre la simulation animale et la simulation humaine ? On peut même dire. Pourquoi vous voudriez inscrire cette différence spécifique entre la façon dont les animaux simulent et la façon dont nous simulons ? Moi, il m'arrive souvent à Saint-Germain-des-Prés de voir passer une tête de renard en costume, une tête de musaraigne dans un magasin, et bon, j'ai parfaitement l'impression de rencontrer, rencontrer des animaux.
On va en rester à ces perplexités. Merci.